Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud.
Qui croit que la parole de Dieu est la meilleure chose qui ne peut pas nous arriver? C'est la parole de Dieu qu'on peut s'appuyer. Et je vous encourage ce matin, juste que vous sachiez qu'on vous tient dans la prière. Qu'on veut rester unis, comme j'ai dit avant de commencer le message, qu'on soit là les uns pour les autres. On veut faire tout ce qu'on peut en tant qu'équipe de leadership et en tant qu'église pour prendre soin les uns des autres. On veut vous encourager aussi d'appeler des gens, de faire des dîners ou des soupers live avec d'autres gens, peu importe, trouver une façon de connecter. Pour certains, c'est la quarantaine. C'est plus difficile, d'autres c'est moins difficile, tout dépendant des fois de nos personnalités. Mais l'important, c'est qu'on prenne soin chacun des autres. Il y en a qui ont peut-être perdu leur emploi. Il y en a qui, comme j'ai dit tantôt, qui travaillent plus fort. Mais Dieu est là et Dieu est avec nous. Et je veux juste commencer dans la prière en disant, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour qui tu es. On te remercie parce que tu es présent, tu es là, tu es vivant, tu es avec nous, Seigneur. Tu es notre forteresse, Seigneur. Tu sais que ta faveur est comme un bouclier qui nous entoure. Et Seigneur, peu importe nos situations, peu importe ce qui se passe autour de nous, Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Alors, on reçoit, Seigneur, ta présence qui nous entoure dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit, vous pouvez le crier à haute voix, Amen. All right. La semaine passée, alors que je cherchais à voir... Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à son Église, non seulement à Oasis, mais au peuple de Dieu en général? J'ai commencé un message qui s'appelait « La réponse de Dieu », plutôt la réponse du peuple de Dieu en face du coronavirus. Et j'avais à cœur cette semaine de continuer la thématique. Je crois qu'il y a d'autres choses qu'on doit avoir comme réaction, comme comportement en tant qu'enfant de Dieu, en lien avec ce qui se passe autour de nous. Et je vais vous encourager de différentes façons ce matin et qu'on puisse être un peuple qui répond selon les Écritures, être un peuple qui répond à ce qu'on fait face selon la parole de Dieu. Et juste pour vous mettre dans le bain, la semaine passée, j'ai parlé de quatre positions, quatre réponses que le peuple de Dieu doit donner en ce moment face à cette crise. La première, c'est « Je n'aurai pas peur ». Ésaïe 41:10 va dire « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi ». Dites « Amen » à ça. « Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive. » J'arrive à ton secours, je te protège, ma main droite tient sa promesse. Amen. On a chanté ce matin, oui et amen. Ses promesses sont oui et amen. Même dans 2 Timothée 1:7, on voit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais Dieu nous a donné un esprit de courage, de sagesse, d'amour, un esprit même d'enthousiasme dans la version parole vivante, de jugement saint, de parfaite maîtrise. Comment? Et si en ce moment la peur peut être contagieuse, laissez-moi vous dire que l'espoir aussi est contagieux et que le peuple de Dieu, plutôt que le monde, a besoin de voir une église courageuse en ce moment et qui va apporter le message de Jésus-Christ de toutes les façons possibles dans la situation où nous sommes. Deuxième chose, j'ai dit que je vais prendre ma dose de paix. Anna en a parlé dans l'ouverture. Jean 14:27 va dire, c'est Jésus qui dit, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Et ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner. Qui peut dire « Amen » à ça? Partout où vous êtes ce matin, comment? Jésus dit « Je vous laisse ma paix, c'est un cadeau. » Qui est content de recevoir un cadeau? Tout le monde est content de pouvoir déballer un cadeau. Et le cadeau que Jésus donne aujourd'hui, c'est « Je te laisse ma paix, tu peux la déballer. » Cette paix-là n'a rien à voir avec ce que le monde peut offrir. Cette paix-là n'a rien à voir avec ce que le monde alentour peut nous donner. Cette paix-là est supérieure, c'est une paix qui vient tout droit des cieux. Et comme on a appris, que la paix, le shalom de Dieu, c'est la puissance qui détruit l'autorité rattachée au chaos. Et alors qu'il y a du chaos partout, alors que même si on regarde dans d'autres pays, des choses s'empirent de jour en jour, il y a des peurs, il y a des sentiments, il y a des inquiétudes rattachées à ce chaos-là, mais la paix de Dieu transcende ces choses-là et détruit l'autorité qui vient avec le chaos. Non seulement je n'aurai pas peur, je vais prendre ma dose de paix, je vais aussi avoir la sagesse. Non seulement l'Église de Dieu est appelée à repousser l'esprit de peur, il est aussi appelé à embrasser l'esprit de sagesse. Et je n'ai pas dit ça la semaine passée, mais voici l'illustration de Martin Luther que j'ai découvert cette semaine. Vous savez, Martin Luther est celui qui était l'instigateur de la réforme des années 1500. C'est lui qui a ramené de l'avant l'idée que le juste vivra par la foi. Et il a vécu au milieu de ce qu'on appelle la plaie bubonique, qui a tué des milliers de gens dans son temps. Et voici ce que Martin Luther a écrit dans ses écrits par rapport à cette plaie-là, cette pandémie qui était là. Il dit, « Je vais demander à Dieu de nous protéger. Ensuite, je vais me fumiger, aider à purifier l'air, administrer la médecine et la prendre. Je vais éviter les lieux et les endroits où ma présence n'est pas nécessaire afin de ne pas devenir contaminé et ainsi, par chance, ne pas infliger ou polluer d'autres à cause et causer la mort comme résultant de ma négligence. » Wow! Il me semble que ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. Il dit, « Cependant, si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ou personne, mais j'irai librement comme cité plus haut. Je crois que cela est une foi remplie de crainte de Dieu. Elle n'est ni impétueuse, ni impulsive, ni téméraire, et elle ne tente pas Dieu. » Come on. Je crois que c'est une parole de sagesse pour nous aujourd'hui, qui date peut-être de 500 ans déjà, mais dans la même situation, Martin a dit, je vais implorer la protection de Dieu, je sais que Dieu me protège, mais en même temps, je vais user de sagesse parce que je veux prendre soin des autres. Dans ma vie personnelle, je la vis avec foi, mais ma vie envers les autres, je la vis dans l'amour. Et non seulement ça, non seulement je n'aurai pas peur, je vais prendre ma dose de paix, je vais avoir la sagesse, je vais prier. Psaume 56, 10 va dire, « Je t'invoquerai et mes ennemis battront en retraite, car je suis certain que Dieu est pour moi. » Est-ce que vous êtes sûr que Dieu est pour vous ce matin? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu est pour vous aujourd'hui? Alors, je vais prier. Ma vie va devenir une maison de prière dans les prochaines semaines et jusqu'à dans l'éternité. Je vais prier pour les autorités, les malades, les gens anxieux, les finances, les cœurs, que Jésus puisse faire son chemin dans chaque cœur présentement. Et je vais prier que les choses tournent, de la situation tourne, qu'on ait cette pandémie passe plus vite que prévu à cause que le peuple de Dieu aura prié, aura pris cet étendard-là de dire, « Hey, nous, on va prier et on va déclarer, comme Jésus a dit, silence, tais-toi à la tempête, qu'on puisse déclarer la paix à travers cette tempête et la présence de Dieu. » Il y a 4 autres réponses rapidement que je veux vous parler ce matin. Et la première, c'est que je vais marcher par la foi. Amen. 2 Corinthiens 5, 7 dit ceci, « Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. » Colossiens 3, 2 va dire que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers les biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'annonces présentement, il y a beaucoup de textes ou d'infos qui circulent partout sur les réseaux sociaux, à la télévision. Vrai, pas vrai, apeurante, réconfortante, peu importe. Mais la vie terrestre est en train d'être redéfinie présentement. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, c'est que, nous ne sommes pas de ce monde. Come on! Même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ça dit que notre vie est ancrée dans les lieux célestes, que nos pensées, que notre affection est portée vers les lieux célestes. Oui, je suis dans ce monde. Dans ce monde, Jésus-même va dire, vous allez avoir des troubles, il va avoir de l'opposition, il va avoir des pandémies, il va avoir des guerres. Mais je ne suis pas de ce monde, je suis dans ce monde, mais ma vie est ancrée dans les lieux célestes avec Jésus. Alors, je ne vais pas me laisser désorienter. J'ai écrit ceci. Je ne vais pas me laisser distraire par la vue de ce que je vois ou de ce que les réseaux sociaux disent pour perdre la connexion avec ce que les cieux disent de cette situation. Come on! Et Dieu dit quelque chose. Dieu voit de son trône. Il n'est pas surpris. Il n'est pas tombé en bas de son trône. Et dans la situation dans laquelle nous vivons, on doit naviguer à cause que je n'appartiens pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais ma vie est ancrée avec Jésus dans les lieux célestes. Je ne me laisserai pas distraire pour perdre de vue ce que Dieu dit de la situation. Et je vais aller chercher sa face, je vais rentrer dans sa présence, je vais demander à l'Esprit de révéler, « God, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? » Et je ne vais pas perdre de vue ma connexion avec les lieux célestes. Come on! Non seulement ça, je ne vais pas me laisser aveugler par la vue de ce fléau ou les circonstances changeantes pour que je perde ma position avec laquelle Jésus m'appelle à vivre. Come on, this is good, Joe. Come on, je ne vais pas perdre de vue la position que Jésus donne. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Jésus est assis à la droite du Père sur son trône. Tout a été mis sous ses pieds. Come on. Et je sais que rien va me séparer de l'amour de Jésus. Si vous êtes quelque part dans ce monde, dites amen. Parce que vous êtes protégés. Il n'y a rien qui va vous séparer de l'amour de Jésus. Et alors que ce monde vit plein de situations qui affectent le cœur, je sais que je suis fondé dans ma foi en Jésus-Christ. Come on! Amen! Amen! Je ne sais pas si vous êtes debout dans votre salon en train de dire « Merci, Jésus, pour la foi que tu me donnes. » Et ce n'est pas parce qu'il y a plein d'incertitudes dans ce monde qu'on va perdre notre foi. Ou qu'on va se retirer dans notre foi, ou qu'on va reculer dans notre foi. Hébreux 10, 35, 39 va dire, « Ne perdez donc pas votre assurance. » Come on. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance. Qui a besoin de persévérance ce matin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet? En effet, il est écrit, encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Cependant, écoutez bien ceci, cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. Nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. Ha-ha! Êtes-vous sur la voie du salut? Come on! Êtes-vous sur la voie du salut aujourd'hui? Peu importe qui vous êtes. Aujourd'hui, peut-être vous connaissez Dieu, peut-être vous ne connaissez pas Dieu, je vous interpelle de vous mettre sur la voie du salut. Come on. Et dans ce salut-là que Jésus donne, il y a une assurance, il y a une promesse, et nous persévérons jusqu'au bout. On n'est pas de ceux qui se retirent. La foi ne met pas de côté les faits. La foi, c'est une conviction à travers les circonstances. Amen. Et des fois, on voit les faits, on voit les décisions qui sont prises, ça va affecter des gens. On ne connaît pas le futur, on ne connaît pas le lendemain. Jésus va dire, ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vont vous être données. Il prend soin de nous et j'écris ceci, notre foi, écoutez bien ça, c'est trop bon. Notre foi n'est pas enracinée dans nos efforts ou nos capacités, mais elle est enracinée dans les habiletés de Dieu. Come on, that's so good. Ma foi n'est pas enracinée à mes capacités. Il y a même des choses que je ne contrôle pas présentement. Je suis une victime, peut-être des situations, une victime des circonstances, mais ma foi n'est pas enracinée à ce que je peux faire. Ma foi est enracinée dans les habiletés de Dieu, dans la conviction qui me protège. Come on. Et je veux vous rappeler ce matin, écoutez bien ça, que Dieu est fidèle, qu'il est un merveilleux conseiller, que Dieu agit et va agir, qu'il me protège, qu'il vous protège, que jamais il m'abandonne, que jamais il me délaisse. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Come on. Dieu est vivant, Dieu est réel. Et le juste vivra par la foi, parce qu'on a un bon papa qui prend soin de nous à travers chaque circonstance. Amen. Le peuple de Dieu va marcher par la foi dans la saison dans laquelle nous vivons présentement. Come on, j'espère que vous êtes là et vous recevez ce que Dieu dit ce matin. Deuxième chose, je vais être généreux. Vous savez, l'être humain n'a pas de la misère à être égoïste. Habituellement, la réponse, pas normale, mais habituelle, des gens, j'étudie le peuple de Dieu, l'être humain n'a pas de la misère à être égoïste. Et vous remarquez qu'il n'y a aucun cours en ligne sur comment être plus égoïste. ça vient naturel. Mais dans la situation où qu'on est, Dieu nous appelle à être altruiste, à être généreux, à être plein d'amour. On l'a vu avec le papier de toilette, sans vouloir en rajouter sur cette histoire-là, mais on l'a vu où tout le monde, on dirait que la réaction, c'est de prendre. On va à l'épicerie, il n'y a plus de nouilles, il n'y a plus de canne, il n'y a plus de pain. On n'a plus de farine. C'est quand la dernière fois qu'on a utilisé de la farine? Et il n'y a plus de farine. On revient à la base. Et avec le papier de toilette, c'est comme si le Québec s'était dit, si je pourrais mourir, au moins je vais mourir les fesses propres. C'est comme si mourir dans la dignité aujourd'hui, mourir dans la dignité, c'est mourir les fesses propres. Et on, à cause de la peur, on veut accumuler pour survivre. Mais Dieu nous appelle à avoir un autre cœur. Dieu nous appelle à être généreux. Dieu nous appelle à partager à cause de qui il est, à cause qu'il habite en nous. On a la capacité d'être généreux. Come on, Dieu est le personnage, est l'être le plus généreux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a été généreux d'envoyer son Fils. Jésus a offert sa vie lui-même à la croix. Jésus a eu un amour inconditionnel pour chacun de nous. Ce même esprit de compassion, de générosité, d'amour habite en nous, frères et sœurs, et on doit nous aussi être généreux. Come on! Philippiens 2, 3a, 4, 5a dit ceci: n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pourrez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Est-ce que dans le temps qu'on vit, on peut avoir les progrès de l'autre à cœur? Écoutez bien ceci. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a un comportement qui appartient à ceux qui connaissent Jésus-Christ? Il y a un comportement qui vient avec ceux qui connaissent Jésus-Christ. Et le comportement qu'on parle ici, c'est l'idée d'être généreux, de prendre à cœur le bien de quelqu'un d'autre, de ne pas penser à soi-même, mais de dire, c'est qui a besoin d'aide? Et vous savez, on n'est jamais plus proche de ressembler à Dieu que quand on est généreux et qu'on donne d'une façon inconditionnelle et sacrificielle. Come on, et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va avoir l'occasion d'être généreux, on va avoir l'occasion de partager, on va avoir l'occasion de donner, non seulement physiquement, mais spirituellement, et partager non seulement dans l'amour, dans l'entraide, dans ceux qui souffrent, dans ceux qui sont en besoin, même à travers l'église locale, mais à l'extérieur aussi, mais aussi on va partager spirituellement. On va être contagieux dans notre foi, contagieux dans notre amour, contagieux dans notre joie, contagieux dans la paix que Dieu nous donne. Vous savez, la générosité était la marque de l'église primitive. Vous savez, l'église primitive a été dès le début mise sous la persécution. Dès le début, a été mise à être pourchassée. Et leur réaction n'a pas été d'aller au Walmart de Jérusalem et de tout vider, les ranger. Ils ne sont pas allés tout ramasser les cannes d'olives du mont des Oliviers. Ils ne sont pas allés acheter toutes les boîtes de Frosted Flakes du lion de Juda. Ils ne sont pas allés acheter tout le papier de toilette égyptien de première qualité qui servait à embaumer les momies. Ils ne sont pas aussi allés acheter toutes les Purell Shaddai pour les de la mer morte pour les acheter et les revendre sur Amazon. Je vais vous laisser le temps de réfléchir à ce que je viens de dire. Non, à la place, ils se sont mis ensemble. Acte 2, 44-45, dit, voici ce qui est dit ici. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Wow! L'Église de Jésus-Christ, dans un temps de dans un temps où ils étaient pressurisés, dans un temps où le monde changeait pour eux, dans un temps où ils étaient même mis en persécution, ils étaient unis. Et c'est une chose qu'il faut faire, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est s'unir pour s'entraider, pour partager, pour donner. Les occasions ne manqueront pas. Et comme Martin Luther a dit, je vais respecter qu'on me demande, mais si j'ai un voisin en besoin, je vais prendre soin, je vais faire ce qu'il faut faire, mais je vais aller l'aider. Je vais aller prendre soin de lui. Et notre mission n'a pas changé, frères et sœurs. Notre mission à Oasis, c'est de vivre sa présence et faire la différence. Et ce n'est pas parce qu'on nous demande de faire l'Église d'une façon différente que notre mission va changer, qui est de vivre sa présence et de faire la différence. Et on va trouver la façon de s'encourager, de se propulser, de se motiver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au pire, pour dire, come on, comment on peut être la lumière? Troisième chose, je vais m'inspirer au quotidien. Wow! Non seulement je vais marcher dans la foi, non seulement je vais être généreux, mais aussi je vais m'inspirer au quotidien. La suite de Actes 2 que je viens de vous lire, ça dit ceci, chaque jour, dites à votre voisin, chaque jour, régulièrement, ça veut dire plusieurs fois par jour, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble, dans leur maison, et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu, ils étaient estimés par tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'ils amenaient au salut. Wow, come on! Dans un moment de persécution, c'est-à-dire que l'Église a non seulement émergé encore plus, et des fois, c'est vous, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Église est limitée, Dieu s'en sert pour propager encore plus son message. Dieu s'en sert pour changer les circonstances afin que l'Évangile soit partagé de différentes façons. Comme la persécution à Jérusalem a amené les chrétiens à s'en aller dans chaque région autour et que l'Évangile a été prêché dans chaque région autour. Comment? Je crois que Dieu nous appelle à remplir le net de la parole de Dieu. Et je vous encourage, frères et sœurs, comme les disciples, comme l'Église primitive, de vous remplir de Dieu au quotidien. Vous remplir la parole de Dieu. On va mettre le guide de lecture encore disponible, peut-être sur l'Internet. Trouvez un guide de lecture. Remplissez-vous de Jésus. Mettez YouTube, mettez des chants de louange. Remettez la louange aujourd'hui. Changez l'atmosphère dans votre maison. Il y en a qui ont moins de travail. Il y en a qui travaillent plus. Prions pour ceux qui travaillent plus. Ils doivent se donner plus, comme les infirmiers, infirmières, les policiers, les médecins. Si vous êtes à l'arrière, à la maison, come on, c'est le temps, hein? C'est le temps d'avoir un réveil personnel dans nos maisons, come on. Si les nouvelles et Facebook jouent plus fort, come on, que notre télé, pas que notre télé, que notre Bible, fermez ça, puis ouvrez votre Bible, Jésus veut vous parler, Dieu veut vous parler, ayez une perspective des lieux célestes, je vais me nourrir, je vais louer, je vais lire le psaume 91, je vais lire le psaume 19, come on. Comme l'Église de Jésus-Christ, ils se sont mis ensemble et on va faire tout ce qu'il faut pour quand même pouvoir connecter ensemble. C'est pas parce que l'Église doit se réunir d'une façon différente qu'on va déconnecter, mais on va faire tout en notre moyen pour être sûr qu'on connecte et qu'on s'encourage et qu'on se bâtisse. Moi, je prie que l'Église de Jésus-Christ sorte de cette crise plus forte qu'elle l'était avant. Comment? Qu'elle soit forte, qu'elle soit remplie, comme on a chanté ce matin, remplie de l'Esprit, remplie de la vie de Dieu. Et je prie que ce matin, partout où vous êtes, vous ayez ce désir qui brûle en vous, ce réveil personnel de dire, comment je vais me tourner vers Dieu. Le monde a ralenti. Les magasins ferment, les épiceries ferment, le sport ferme, le terrain de golf ferme, les activités ferment et le monde ralentit présentement. Et je crois que Dieu, quelque part, à travers ça, il dit, maintenant que tu as un peu plus de temps, est-ce qu'on peut venir ensemble puis parler? Maintenant que la cédule est éclairée pour bien des gens, est-ce que tu peux venir devant moi afin qu'on ait une rencontre d'un face-à-face? Come on! Je prie que chacun d'entre vous ayez un face-à-face avec Dieu, que Dieu vous rencontre. Alors qu'on a du temps dans la famille, c'est tellement fun. Hier, mes enfants ont fait le souper. J'étais tellement béni. C'était bon au bout. Et la vie est ralentie. C'est quoi qu'est-ce que je prie? C'est qu'il y a des réveils dans les maisons présentement. Il y a des réveils dans les maisons qui vont faire pff, que le peuple de Dieu, quand il va sortir de ses brancards, avec amour, générosité, va sortir avec feu. Alors, Seigneur, je prie pour chaque maison présentement. Mettez vos mains devant vous. Je prends une pause dans mon message, 2 secondes, pour dire, Seigneur, fais un œuvre de réveil dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos cœurs. Je vais prendre du temps quotidien avec toi. Je vais laisser l'Esprit de Dieu me parler. Je vais aller écouter ta voix parce que tu veux me parler, Seigneur, et tu veux m'encourager, tu veux me bâtir, tu veux me dire ce que les cieux voient de cette situation-là. Et Seigneur, je prie pour chacun de nous qu'un feu brûle dans nos vies. Amen. Et dernière chose ce matin, parce que je crois que Dieu veut ajouter à son Église, comme dans le temps de l'Église primitive, alors qu'il louait Dieu, alors qu'il était dans sa présence, c'est-à-dire que Dieu ajoutait à chaque jour à l'Église. Je crois qu'on est appelé à briller, frères et sœurs. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais je veux développer ce point avec vous. Je crois que l'idée, c'est qu'on doit être la lumière du monde, présentement. Et plus que les ténèbres avancent, plus que l'Église de Jésus-Christ doit briller. Matthieu 5, 15, 16, ceci, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, au contraire, on la place sur un support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16 va dire, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. On est appelé à briller, pas pour nous, pas pour notre avancement personnel, pas pour que tu m'as-tu vu, qu'est-ce que je fais. On est appelé à briller afin que les gens voient notre amour, voient le bien qu'on fait, voient notre générosité. Et loue qui? Loue le Père, adore le Père qui est dans les cieux. Comment nous sommes la lumière du monde? Comment nous sommes la bonne nouvelle? Nous sommes des pocheurs d'espoir présentement. Comment? Pour ceux qui comprennent le terme en anglais. On est appelé d'être des dealers d'espoir dans un moment. Et là, on vit de la résilience présentement. Mais si ça dure, on va voir différentes attitudes prendre place. On va voir l'inquiétude monter. On va voir la peur. On va voir le désespoir. Les gens qui n'ont plus de travail. Les gens qui n'ont plus de finances. Et le peuple de Dieu, même si nous, ça nous atteindrait d'une certaine façon, on est remplis d'espoir et on est des dealers d'espoir, on est des pocheurs de vie, on est des pocheurs de paix, on est des dealers de joie, parce que celui qui est en dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Come on! Et on est ceux qui sont la lumière du monde présentement et qu'on doit briller et pointer à Jésus et pointer à ce que Dieu fait. Parce que je crois, comment, que Dieu va faire quelque chose de merveilleux à travers la situation dans laquelle que nous vivons. Et nous n'aurons pas honte de l'Évangile. Comment? Parce que présentement, l'Évangile a la possibilité de rentrer dans chaque maison, dans chaque cellulaire, dans chaque ordinateur, dans chaque télévision, dans chaque endroit où qu'on peut propager. Peu importe que ce soit par Oasis ou que ce soit n'importe quelle autre église, je m'en fous. C'est que le message de Jésus-Christ, de l'Évangile que Dieu nous donne, soit propagé avec audace. Come on! Alors que le Seigneur va ouvrir les portes. Laissez-moi finir avec ce texte ce matin. Et je crois que c'est le texte qui nous encourage aujourd'hui. Et je prie que ce soit un texte que vous lisiez dans les prochaines semaines, régulièrement. C'est 2 Corinthiens 4, 6 à 9 qui dit ceci. Je vais boire avant, OK? En effet, le même Dieu, écoutez bien ça, c'est trop bon. En effet, le même Dieu qui un jour a ordonné qu'à la lumière jaillisse des ténèbres a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu. Si vous ne savez pas que vous êtes appelé à briller après ce verset-là, peut-être vous ne le saurez jamais. C'est-à-dire que Dieu est rentré dans notre cœur, il nous a illuminés afin que nous, à notre tour, on reflète quoi? La connaissance de Dieu. Pas juste de l'information, une expérience personnelle avec lui, une transformation. Et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Amen. So good. Verset 7, cet évangile, le message de Jésus est le trésor précieux qui nous a été confié. 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, fragiles, que d'autres versions vont dire. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Ça veut dire que ça se peut qu'on le pogne, le coronavirus, mais on va continuer parce qu'on a des corps fragiles qui sont affectés par le monde déchu, par la maladie, mais peu importe. Ah, regardez ce que le texte continue à dire. Même traqué et opprimé de tous côtés, et cependant jamais subjugué par la peur. Come on! Fréquemment désemparé, mais jamais découragé. Souvent nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénouement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Come on! Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu nous a créés résilients. Il nous a créés plein de foi. Et on n'arrêtera pas. On ne va pas arrêter de briller. On ne va pas arrêter de partager. On ne va pas arrêter de parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne va pas arrêter de louer. On ne va pas arrêter d'adorer. On ne va pas arrêter de donner. On ne va pas arrêter de partager parce que nous sommes la lumière du monde. Et on n'a pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Come on. Vous savez-vous, c'est quoi la solution au monde présentement? C'est Jésus. La solution à la contagion, à la pandémie, c'est Jésus. Le nom de Jésus n'est pas moins puissant qu'il était dans les Écritures et dans la Bible. Le nom de Jésus n'a pas perdu sa puissance en 2000 ans. Le même nom qui sauve, le même nom sur lequel on peut tout être sauvé, a la capacité de vous sauver, le même nom qui guérissait les malades dans le livre des Actes et dans les Évangiles, au même nom est encore si puissant aujourd'hui. Et son nom, ça dit, la Bible, ça dit que son nom est au-dessus de tout nom. Comment? Et ce matin, je veux vous interpeller à invoquer le nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, je vais marcher par la foi. Dans ce moment, je vais continuer à être généreux. Je vais continuer à me nourrir d'une façon quotidienne aussi. Surtout, je vais briller. Mais je vous interpelle quelques instants. Si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, je vous encourage à laisser la lumière de Jésus rentrer dans votre vie. Vous savez, Jésus a été tellement généreux qu'il a offert sa vie à la croix afin que tous soient sauvés. Et ça dit que si on croit au nom de Jésus, nous allons être sauvés. Peu importe qui vous êtes, si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, le monde ne peut pas nous sauver. Et on va tout faire dans ce que nous connaissons pour trouver des solutions. Mais la seule chose qui sauve notre âme et qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus. Mort et ressuscité, mort à la croix et ressuscité, la preuve qu'il a vaincu la mort et qu'il nous donne aujourd'hui. En croyant son nom, nous donner la capacité de non seulement de vivre dans ce monde, mais ne plus être de ce monde et vivre à partir des cieux. Et si vous voulez recevoir cette lumière, je vous demande juste de faire cette prière avec moi, juste la répéter. Et partout où vous êtes, de juste faire cette prière avec moi, de dire, Dieu, je te donne ma vie. Je te fais confiance avec ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mes fautes. Je réalise que j'ai besoin de toi. Je réalise que j'ai besoin d'un sauveur. Et aujourd'hui, je te fais confiance. Je vis la foi, c'est la confiance. Je vis dans la confiance que tu es la vérité, tu es la lumière de ce monde et que tu changes ma vie et que tu me donnes la vie éternelle. Amen. On vous bénit aujourd'hui. Je ne sais pas si Mathieu, tu pourras aller au piano quelques instants, peut-être Joseph aussi, juste doucement. Si vous avez fait cette prière avec nous, écrivez-le dans le commentaire, partout où vous écoutez, sur YouTube ou sur Facebook. On veut savoir qui vous êtes. On veut savoir que vous êtes partie de la famille de Jésus-Christ aujourd'hui, vous avez pris cette décision. Mais je veux prier pour chaque personne qui est avec nous pendant qu'on joue tout doucement. Je ne sais pas si vous pourriez vous lever debout partout où vous êtes, si vous êtes capable. Si vous êtes dans votre véhicule, c'est plus dur, mais partout où vous êtes, Dieu veut agir, Dieu veut faire son œuvre, Dieu est bon. Je peux-tu vous encourager? Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que dans plusieurs moments où le monde a vécu des crises, Dieu a fait un œuvre extraordinaire. On fait juste regarder à la Deuxième Guerre mondiale qui, pour plusieurs d'entre nous, c'est très loin. On vit un moment aujourd'hui de pandémie, mais ces choses-là ont été partout dans l'histoire, partout, que ce soit au début du siècle, que ce soit dans des années passées. Et dans les pires événements, c'était la Deuxième Guerre mondiale où des millions de personnes, des millions de Juifs ont été tués, des millions de soldats ont été tués. Et dans cette occasion, le monde entier a été mis centré sur un événement. Mais tout de suite après la guerre, Dieu a fait un œuvre extraordinaire, où en Amérique surtout, et même ailleurs, il y a eu un réveil, on appelait ça le réveil des tentes. Où il y a eu tellement d'évangélistes qui se sont levés et tellement d'hommes, de femmes de Dieu qui se sont levés. Et partout en Amérique, des tentes s'élevaient et il y avait des meetings, des rencontres sous les tentes. Le Saint-Esprit était déversé et il y a eu un mouvement de guérison. Il y a eu des hommes de Dieu, des Oral Roberts, des John G. Lake, plein d'hommes, de femmes de Dieu qui se sont élevés. Et des Catherine Kuhlman, des hommes et des femmes de Dieu. Et un mouvement de réveil a touché l'Amérique du Nord en particulier. Et je crois que nos yeux doivent être fixés non sur ce qui se passe présentement, mais ce que Dieu dit des cieux et de ce que Dieu fait. Et soyons prêts, frères et sœurs, à briller. Soyons prêts à la next phase. Je crois que cette quarantaine n'est pas un arrêt du réveil, mais plutôt une propulsion, alors que Dieu repositionne son Église pour briller encore plus fort. Alors que vous êtes debout, peut-être juste les mains devant vous, les yeux fermés, vous tenez les mains en famille, peut-être, je veux juste prier pour vous déclarer un réveil pour vos maisons. Dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, Père, tu nous réalignes avec ce qui est essentiel. Tu nous réalignes dans cette saison avec ce qui est nécessaire. Tu coupes le superflu afin qu'on puisse avoir une ligne directe avec toi. Dieu, tu veux nous parler présentement. Dieu, tu veux nous dire tes plans que tu as à travers cette situation parce que tu n'es pas tombé en bas de ton trône. Et Seigneur, on bénit chaque famille, chaque personne qui écoute. Tu les soutiens de ta main droite et les promesses qui sont dans tes mains droites comme on a lu, Seigneur. Que ta paix surabonde, Seigneur. Je te prie pour un esprit d'entretien et d'unité et de générosité s'élève dans le corps de Christ présentement. Que des réveils, comme on a dit, puissent prendre dans chacune de nos vies. On peut se tomber à genoux devant la face de Dieu. On peut se tomber à genoux devant lui. Alors que nos repères peuvent être enlevés pour plusieurs, que tu viennes la pierre angulaire, que tu viennes le rocher solide sur lequel on s'appuie. Et Seigneur, on met nos pieds, Seigneur. Hallelujah. Et Père, je te prie que le peuple de Dieu, toute église confondue, puisse briller comme jamais, Seigneur. Shine upon us. Brille sur nous, afin qu'on puisse refléter ta gloire. Que l'illumination de la connaissance de Dieu que tu nous as donnée, Seigneur, puisse être propagée dans l'amour, dans la paix, dans la joie, Seigneur. Qu'on puisse être, Seigneur, être contagieux de ce que tu as déposé en dedans. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste chanter un petit refrain? Ensuite, on va conclure, mais juste laisser la présence de Dieu vous toucher quelques instants. Alors que vous êtes dans cette attitude de prière, laissez juste Jésus vous toucher là où vous êtes. Alléluia. Yes, Jesus. I Merci pour ce temps dans ta présence aujourd'hui. On vit, Seigneur, cette pesanteur de qui tu es ici dans ce lieu, que ça puisse se transposer dans chaque endroit. On bénit chaque famille, chaque personne. Tu te glorifies dans chacune de nos vies. Tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Amen. On vous aime. Merci de nous avoir suivis ce matin. Si vous êtes de l'extérieur, on vous bénit, la famille Oasis. Oasis unie, fort, on se tient ensemble, on s'appelle, on prend soin chacun des autres, on se bâtit, Dieu est à l'œuvre et on va s'en sortir encore plus fort. On vous aime, prenez soin de vous et bonne semaine. On se revoit sur tous les endroits live où qu'on peut se connecter. Bye bye.
Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à église-oasis.ca.